Cette semaine, dans le balado, on se fait enlever par des extraterrestres, on part en cavale et on accueille des réfugiés. Bienvenue à mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut, salut! On part en cavale, c'est très léger, hein? Ça sonne pas comme on va partir parler d'une franchise d'horreur.
J'en dis pas plus. Ça peut être une cavale bucolique en forêt
oui, c'est ça. Oui,
anglaise.
Une escapade gourmande.
Oui.
Puis il faut le dire, enlevé par les extraterrestres, mais de son plein gré. Hein,
oui, c'est... oui, faut le dire.
On est dans le fanatisme.
Un ici. Enlèvement volontaire.
Oui, pas planifié, mais volontaire. Consentant. Voilà.
Donc, avant d'attaquer les sorties de la semaine, petit tour d'horizon d'actualité. En début de semaine, c'était très tranquille, puis il y a comme une déferlante de nouvelles depuis deux jours.
C'est la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, fait que les Américains le savent, hein, fait qu'ils doivent faire beaucoup d'annonces en lien.
Alors, débutons avec une qui est tout fraîche, que j'ai lue il y a quelques minutes avant même d'enregistrer.
C'est chaud, c'est chaud.
Il y aurait une courte liste pour le prochain James Bond de réalisateur. Mm-hmm. Donc, selon un insider d'Hollywood.
Oh, j'ai pas regardé mes messages. Je sais pas si.
T'es-tu dessus? Amazon de te contacter?
Non, mais. Peut-être. Là, peut-être dans mes spams. Je vais regarder
par
tantôt.
Pas espoir. Il y aurait 4 réalisateurs que le studio a rencontrés qui sont venus présenter leur vision.
OK, fait que pas les comédiens, là, les réalisateurs.
Non, pour les réalisateurs. Excuse-moi.
Ah, ben non, ça, c'est sûr, je suis pas seul.
OK,
mais toi, avec tes courts-métrages,
peut-être.
T'aurais pu.
J'aurais pu faire une demande en ligne.
C'est donc, ça. Info at Amazon.
Amazon, James Bond.
Même pas MGM.
Alors, quand même, quelques choix étonnants. Je pense que je pense qu'il y a un shoo-in. Donc, il y a Paul King qui est derrière les Paddington et Wonka.
Ouais, c'est ça, OK.
Ouais, très champ de gauche, mais.
Oui, mais pas tant, parce que c'est un peu ça, c'est des films d'aventure, c'est des films escapades, travail avec un peu d'effets numériques, des effets pratiques, des affaires, c'est pas les mêmes budgets. Mais
humour britannique très présent dans ces films, fait que oui. Edgar Wright.
Ouais, ça, je pense que depuis longtemps, on l'entend parler.
Yeah, je pense,
il était dans les rumeurs, même des derniers avec Craig. Là,
ouais, donc.
Mais ça serait, tu vois, lui, ça serait peut-être une twist que, en même temps, je pense que peu importe lequel, les studios et la production va chapeauter ça. Là. James Bond, c'est un peu comme du Marvel. Je ne suis pas sûr qu'ils vont dire « amuse-toi ».
C'est quand même formaté.
Ouais, puis dans un an, montre-nous ce que tu as fait. Là. C'est comme, non, parce que lui, il peut partir un peu sa dérape funny-funny.
Ouais, mais ça serait peut-être...
Mais c'est un bon réalisateur d'action.
Tout à fait. Edward Berger, qui nous a donné Conclave.
Oui, mais c'est un Allemand, lui.
Oui, mais...
Parce que juste, ça faisait deux ans.
Oui, tout à fait, deux ans. Mais grâce à son conclave et sa façon de bien tenir des moments de tension, jeu de comédien, je pense que ça pourrait être très intéressant.
Il n'a pas encore fait des séquences de combat et des choses comme ça. Mais
en quoi, dans The Western Front, quand même?
C'est vrai qu'il y avait du corps à corps dans les tranchées et tout. Là, fait que,
Puis, mais des fois, ça peut surprendre un peu parce que des fois, les réalisateurs font des films à plus petit budget puis finalement, avec du gros budget, nous étonnent, comme Denis Villeneuve, qui est sur la courte liste, qui est le quatrième. Bon.
Puis lui, est-ce que c'est lui qui avait dit il y a quelques années que ça l'intéressait ou si le monde y a mis des mots dans la bouche?
Non, je pense que c'est vraiment un de ses souhaits.
Ah, c'est excitant. Mais tu vois, c'est vraiment 4 bons choix. Là.
Oui, je pense
le premier, Paul King, un peu décontenancé, mais... Hein? De toute façon, c'est comme en musique, là. Je suis 100% d'accord là, que les gens sont pas juste dans un style. C'est pas parce que quelqu'un a fait une comédie dramatique qu'il va faire des comédies dramatiques pour toujours. Là. Fait que c'est bien correct. Et c'est une bonne idée de les rencontrer, d'avoir c'est quoi leur pitch, qu'est-ce qu'ils voient de la vision de comment on renouvelle, mais qu'on rend hommage, etc. Là.
Tout à fait. Donc,
sauf que j'ai l'impression que si c'est Denis Villeneuve, il va falloir qu'il revoie un peu son calendrier de tous ses prochains projets.
Ben,
les autres sont peut-être juste moins au courant, mais il a l'air très occupé. Là.
Ben ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai comme l'impression, je mets un petit 2 sur Edward Berger, je pense. Parce que je pense que Villeneuve, écoute, ça ne serait pas avant la fin 2027. Là, parce que là, en théorie, les rumeurs disent qu'il commence le tournage de Dune 3 à la fin de l'été.
Qu'il voulait faire dans genre 10 ans, mais qu'ils ont dit non, on presse le citron. Puis là, lui, il avait un projet de Cléopâtre aussi. Mais ça, ça avait l'air plus d'un pitch. Puis là, ils doivent être en financement et tout.
Ouais, il y a comme 3-4 trucs qui cuisent en même temps là, sur la cuisinière. Mais fait que ça va tout dépendre en fait d'Amazon. Est-ce qu'ils sont prêts à attendre un peu puis avoir Villeneuve, c'est vraiment leur gars? Ou peut-être aller avec quelqu'un d'autre pour le faire plus vite.
Ou est-ce qu'il va tomber en mode Ridley Scott là, puis être comme...
pendant qu'un temps post-prod, il embarque dans l'autre.
C'est ça, il est déjà. Fait que tu prépares un peu tes deux films, tu es en tournage pendant que l'autre est en post-prod. Fait qu'il faut que tu délègues plus puis que tu fasses confiance à ton équipe parce que tu peux pas être aux deux places en même temps. Là. Puis comme ça, ils vont se dire ben, c'est sûr que Dune Messiah serait un hit box-office. Puis nous autres, tout de suite après, on est capable de dire que six mois plus tard, paf, on a
un James Bond
fait par Denis Villeneuve. Fait que c'est ça qui peut être un incitatif pour eux financier. Tandis qu'est-ce que Edward Berger... Je pense qu'aucun des... Edgar Wright pourrait avoir un petit boom de curiosité, mais pas nécessairement pour les fans de James Bond.
Non, c'est ça, je pense.
C'est comme un diagramme de Venn, là, comme deux cercles, puis ça se touche au milieu, mais en général...
Je pense que Berger, avec son conclave qui touche un public plus vieux, consommateur de James Bond, c'est peut-être un choix plus safe, disons ça.
Ouais, qui rallierait plus large. Ouais, à voir.
Mais la question qui se pose, c'est si Denis Villeneuve est choisi, est-ce qu'il va choisir Céline Dion pour la chanson thème?
Mais je pense pas, parce que ses problèmes de voix, je pense qu'il est un peu moins en donné.
Je sais pas trop. En studio, des fois, tout s'arrange. Ou sinon, Cœur de pirate, peut-être. Charlotte Cardin, ça
Charlotte
pourrait,
Cardin, ça serait être... un méchant boom. Là. Je sais pas si je sais qu'elle joue un peu au Canada anglais.
Oui, quand même.
Je sais pas,
oui, elle a un petit following. Okay. Je sais qu'elle va faire des shows là-bas et tout ça. Fait que... Très connue en Europe aussi, fait qu'elle est comme venue petite échelle, mais c'est quand même une vedette
mais
un peu planétaire.
Mais faudrait qu'elle fasse une... on est vraiment loin d'exposition, mais une chanson qui aurait pas l'air d'être non plus juste une espèce d'émule de Billie Eilish. Là. Mm-hmm. Je sais pas que Charlotte Cardin est une copie de Billie Eilish, mais tu sais, à un moment donné, c'est le moule de jeune chanteuse électro-pop ambiante, et puis on peut en mettre d'autres là-dedans, là, mais... c'est un peu
ou
ça,
en vailleur avec les trois accords.
Ouais, ou ramène trois gars sur le sofa. Les trois accords, je pense que ta toune serait très humoristique, mettons. Et
peut-être pour Austin Powers 4.
Daniel Bélanger, je pense qu'il ferait une belle toune.
Parlons de Villeneuve et Dune 3. Deux nouveaux castings n'ont pas été officiellement annoncés, mais d'après tout ce qui circule, c'est chose faite. Les enfants de Paul Atreides ont été choisis.
Ah ouais, OK.
Mais là, ça a bousculé beaucoup de théories sur les réseaux sociaux parce que dans le roman Dune Messiah, ils sont bébés. Mm-hmm. Et c'est des ados qu'on a choisis. Donc, Nakoa Wolf Momoa, le fils de Jason Momoa, qui va faire ses débuts. Et Ida Brooke, qui est dans la série Silo sur Amazon, qui ressemble beaucoup à une jeune Zendaya.
Okay.
Fait que je pense qu'ils l'ont bien choisi.
Mais là, c'est quasiment un spoiler, parce qu'on ne sait même pas avec qui il va faire des enfants. Avec Florence
Pugh.
C'est
avec Shani qui a laissé ses enfants.
OK. Parce que dans la fin du 2, il part avec Florence Pugh.
Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est les changements que Villeneuve a fait par rapport au roman. Parce que dans les romans, Shani et Urulam, Florence Pugh, vivent ensemble. Donc, Shani est comme la concubine.
Ils ont un trou.
Ils sont un peu, ouais. Donc, elle a hérité de ses enfants. Rendu là dans le récit, Paul, la préscience, la prémonition, il peut voir le futur. Donc, les rumeurs ou les théories, c'est que probablement ce serait une vision de ses enfants à plus vieux.
Comme Anya Taylor-Joy dans
effectivement, qui jouait la sœur de Paul Atreides, effectivement.
Va sûrement voir en chair et en os dans le prochain, là. Dans le cas du personnage de Taylor-Joy.
Ben, je sais pas trop, parce qu'elle a, en théorie, c'est à moins qu'il change des trucs, mais c'était 12 ans après les romans de Messiah et Doom, donc elle serait trop jeune.
Ouais.
Est-ce qu'elle va être encore dans la vision? Ça se pourrait. Ou vraiment qu'il va élargir le saut du temps, puis ça va être comme 15 ans, 16 ans plus tard.
Ouais, parce qu'il y a... Il me semble qu'il a clairement dit que pour lui, ça, c'est le dernier Dune, puis après,
lui
en touche plus.
Là. C'est ça. Fait qu'est-ce
qu'ils vont lui dire? Ouais, regarde, tu peux te permettre d'aller un petit peu plus loin ou de prendre plus de liberté pour que ça soit le fun cinématographique.
Ou il va intégrer des éléments de Children of Dune, qui est le troisième roman, peut-être dans Dune partie 3, parce que Dune Messiah est quand même court. C'est vraiment un court roman. Fait que tout est sur la table.
Pour donner finalement un film de 2h55.
Peut-être, ouais, genre.
Parce que là, s'il presse le citron pour qu'il le fasse maintenant, qu'il profite de tout ça, d'après moi, il doit avoir beaucoup de liberté, là.
Mm-hmm.
C'est ça. Bref,
on
le recevra au podcast.
Ben, notre souhait, hein.
On avait refusé la dernière fois, mais on l'acceptera.
Pour les amateurs de la franchise Saw, on sait qu'ils ont comme un peu des problèmes depuis comme un an ou deux. On avait annoncé un film pour cette septembre-ci, ouais, il a été déplacé. Été déplacé. Ben, en fait,
c'est
il n'a jamais été tourné.
C'est qui a pris sa place?
Ouais,
non,
je pense
ou, non, non, c'est le je pense que c'est le machin, The Strangers Chapter 2.
Ah, Strange, oui, t'as raison, c'est ça, c'était Lionsgate. Ouais. En fait, on ne l'a jamais tourné finalement, on ne s'entend pas sur le scénario, la direction à ouais. prendre.
Et puis ça fait pas si longtemps qu'il a annoncé le changement de date, là. Fait que ouais. c'était inévitable, rendu là, puis il n'y avait pas de poster ou quoi que ce soit, mais c'était connu dans les calendriers de cinéma. Puis t'es comme, on était en avril, le film n'était pas tourné, puis il était annoncé pour octobre. Là. Je sais que c'est des films qui font assez vite fait, bien ouais, fait, ouais, mais ça, c'est quand même pas réaliste, là, 6 mois pour...
Mais là, il y a tout un revirement de situation, parce que les ayants droit de ça, qui est Twisted Pictures, ont vendu à Blumhouse, la franchise.
Fait que c'était un peu ça qui a vendu, fait qu'on change de production
complètement. Oui, ouais, fait que non, on délaisse ça, alors Blumhouse prend la direction de la franchise, et ça retombe dans les mains de James Wan, parce que maintenant, lui, il avait eu la fusion de Blumhouse puis Atomic Monster.
C'est lui qui avait commencé
C'est lui qui avait réalisé le premier.
Hey, j'avais oublié ça. Ouais, okay. Ouais. Il en a lancé des franchises, lui.
Oui, quand même, dans l'horreur.
Mais c'était-tu lui l'idée originale? Ou c'était juste fait coller ça?
Je me rappelle plus s'il avait co-scénarisé. Je pense que c'était Leigh Whannell qui avait scénarisé, vrai. Mais je sais pas. Je pense qu'il a peut-être fait ensemble là, le scénario.
Okay.
Fait quand même. Fait que là, je pense que ça va probablement repartir, en tout cas, à suivre.
Mais d'après moi, ils vont juste attendre peut-être le prochain Halloween.
Ouais, j'imagine. De quoi. Oui, c'est ça, là.
Ça dépend. T'sais, Blumhouse aussi, là, ils en ont un puis deux des films d'horreur. Fait qu'eux-mêmes, il faut qu'ils choisissent bien lequel qu'ils mettent en octobre. Quoi que les décadences, historiquement, il me semble, c'est même plus... les derniers, c'était plus septembre, même.
Oui, c'était rendu même un peu fin avant. Septembre. Là, ils profitaient comme d'un mois jusqu'à la
fin. Ouais, il y a cette espèce de fameuse fenêtre-là qu'à toutes les semaines ou deux semaines, mettons, il y a un film d'horreur. Là. On en reparlera quand on sera rendu...
Et c'est pas nécessairement une actualité, mais je voulais souligner quand même qu'aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, le 20 juin, c'est le 50e anniversaire officiel de Jaws.
Parlant de
qui
film d'horreur.
Était sorti sur les écrans en 1975, sur 465 écrans, 400 aux États-Unis, 65 au Canada, avait fait 7 millions de box-office au premier week-end, qui était un record pour l'époque quand même. Je salue quand même ce grand classique.
C'est quand même singulier. Je ne sais pas si c'est à cause qu'il y avait trop de films dans les cartons, mais il n'y a pas d'événements spéciaux pour le film.
Ouais.
Puis quand un petit oiseau m'a dit que ce qui se trame, c'est plus pour la fin de l'été. Mm-hmm. C'est comme ils vont souligner l'année 50e, mais on n'était pas tant sur à cheval sur la date, surtout que justement, c'était un petit peu dans plein de sorties.
Ouais, ouais, c'est la grosse période des blockbusters.
On va parler 28 Years Later. Là, il y a F1 la semaine prochaine. Suite après, il y a les Jurassic World. Il y a même... Megan 2, puis ça, c'est deux films de Universal, puis c'est Universal qui ont Jaws. Fait que je pense qu'ils voulaient pas se court-circuiter eux-mêmes. Fait qu'ils ont dit, bah, plus tard cet été, on. Puis surtout que le mois d'août est une période plus tranquille, généralement, de fin d'été. C'est des résiduels des succès. Ouais. Fait que c'est pas fou de relancer ça avec un petit film événement.
Fait qu'à voir, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le voir sur le grand écran, ça a bien vieilli, honnêtement. On voit que c'est un film pensé et conçu pour le cinéma. C'était une autre époque. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir au IMAX il y a quelques années. Pendant la pandémie, on l'avait ressorti quand il n'y avait pas grand-chose.
Ouais, ouais.
Fait que j'en avais profité. C'était la première fois que je le voyais au cinéma. Et j'ai trouvé ça encore très, très sympathique. Puis si vous voulez le voir...
Ce que j'allais dire, c'est que c'est un film qui est... Des films iconiques comme ça, c'est pas juste genre « Ah, oh, le requin est bien fait » ou justement « Son requin robot a eu des problèmes, fait que là, il a utilisé l'aileron. » Puis tu sais, il y a le génie de Spielberg, mais tu sais, le scénario, c'est-à-dire la construction des personnages, il y a des clichés de « Le maire qui veut pas, non, il y a pas de problème. » Mais tu sais, tout ça, ça a l'air justement d'un cliché ou de quelque chose, une formule qu'on voit souvent, mais...
C'est comme lui qui a inventé la formule.
Ouais,
c'est ça. Oui, effectivement.
Un exemple musical que j'aime bien, c'est que moi, je suis un gros fan de Tom Petty, de regretter Tom Petty, que j'ai découvert quand même sur le tard. C'était pas vraiment mes parents qui écoutaient ça. C'est un beau frère qui m'a fait connaître ça. Puis quand tu écoutes ça, puis qu'après, je le présentais à d'autres mondes autour de moi, parce que ça a moins marqué le Canada, là, du moins pas la francophonie. Tom Petty, c'est moins rendu ici un peu.
Ouais.
Puis... le monde font comme « Ah ouais, mais on dirait que j'ai déjà entendu ça, t'sais, on dirait que c'est du cliché, du surfait. » Puis j'ai comme « Ouais, non, mais il faisait partie des précurseurs qui a mis cette espèce de cool rock-là qui a établi ça. » Fait qu'il faut le regarder un peu avec les yeux de l'époque, justement, comme quand on parle de vieux films, que des fois j'ai de la misère à analyser. Mais ça, je sais que je suis pas le seul. des films en noir et blanc, là. Ouais. Tu sais, Casablanca, je l'avais écouté pour les devoirs quand on a parlé des meilleurs films d'Oscar, mais j'étais comme, ça faisait plusieurs années, j'ai dit, à un moment donné, j'ai de la misère à regarder quand c'est trop vieillot, on dirait, puis le rythme est différent, ouais, puis tout. Ouais. Fait que c'est sûr qu'une sortie au cinéma, c'est ultimement parfait pour ces affaires-là. C'était-tu avec toi au micro? On parlait de Laurence d'Arabie, ou ah, c'était peut-être même dans le même épisode avec Nico, justement, puis c'est comme, tout le monde me dit... Tout le monde qui me parle de ça. Oui, c'est à voir, mais honnêtement, attends une ressortie sur écran dans ta vie. Là, à un moment donné, tu vas avoir accès à ça, parce que le 3h50, 40, je pense, du film, si tu l'écoutes chez vous, tu vas faire pause 6 fois, tu vas l'écouter en 2 shots, puis tu vas dire, bon, c'est correct, mais tu sais...
Non, non, ça n'a pas l'impact que de ça. Le voir dans sa condition.
Que, fait que je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu Jazz, ben peut-être, bon, c'est sûr, si vous avez un événement avec des amis en fin de semaine, faites-le, mais sinon, checkez ça au mois d'août quand certains cinémas vont faire de quoi. Là, ça peut être un beau moment de le découvrir. T'sais.
Tout à fait. Qu'on vous tiendra vos au enfants. Courant. Ouais.
Puis au pire, ils vont le voir. Au mieux, ils vont le voir après les vacances à la plage. Oui, ils ne seront pas pré-traumatisés de vos escapades.
Et si jamais vous en voulez en savoir plus sur la production, il y a un très bon documentaire qui avait été produit à l'origine pour les DVD. Là, je ne me rappelle plus quel anniversaire. Je pense que c'était en 2005. The Making of Jazz, qui est tous trouvé sur YouTube, j'ai l'impression. Là, qui est vraiment fascinant parce que tu l'as mentionné, c'est un projet casse-cou. Ça a été le premier film tourné sur l'océan avec tous les problèmes que ça occasionne. Les requins mécaniques ne fonctionnaient pas. Fait que, il est passé de 59 jours, de 50 jours à 159 jours. Il a triplé son budget. C'est très fascinant de voir tous les compromis qu'il a dû faire en cours de route pour finalement accoucher d'un des grands films du cinéma.
Dans mon souvenir aussi, c'est un film qui est quand même assez long. Là. Il me semble qu'il est autour de 2 heures. Mais je peux me tromper.
Oui, il me semble que c'est à peu près ça. Ouais.
Mais peut-être que les standards étaient différents à l'époque. Là. Aujourd'hui, ça revient. T'sais, Jordan Peele, le Nope, puis des affaires comme ça ont été. Ben, j'y vais de mémoire, là, il me semble. C'est des films un petit peu plus longs, ou Sinners, par exemple. Mais il y a vraiment une époque, années 80-90, que c'était du 90 minutes, là, tous les films, les slashers, 100 minutes peut-être. Mais
en même temps, on n'est pas dans le drame d'horreur dans le sens traditionnel. On est plus dans un thriller, sûr que pour l'époque, il y avait des séquences un peu terrifiantes. Là. Mais quand on regarde ça aujourd'hui, on voit que c'est très, très tranquille. Là. On est quasiment plus dans un film d'aventure qu'un film
mais
d'horreur.
Mais ça a créé le mythe.
Ben oui, tout à fait.
Le mythe d'avoir peur des requins tout le temps. Là,
fait que voilà pour les actus.
Si vous aimez requins, quand même, recommande encore. Prédateur en eau trouble, oui. Dangerous Animals, qui est une autre vision complètement des requins et tout. C'est pas un film qui se veut une émule de Jazz. On en a parlé il y a 2 semaines. C'est pas un gros succès sur écran, fait que hâtez-vous. Là. Mais c'est un film qu'on avait bien apprécié les deux dans un peu sa bonhomie et sa simplicité. Je pense pas qu'on va en reparler dans 50 ans, mais c'est une cool sortie aussi.
Ouais. C'est un très bon divertissement bien fait.
Beau rôle de Jai Courtney.
Alors, tu parlais de Tom Petty. Restons dans le monde musical pour la bande-annonce de la semaine de Springsteen, Deliver Me From Nowhere.
Oui, qui déjà au Québec s'appellera Springsteen, Délivrez-moi de nulle part. Ça parle de Bruce Springsteen et ça semble plus précisément parler de son fameux premier album puis de son
c'est pas son premier, mais son album marquant qui l'a propulsé.
Je suis vraiment pas un connoisseur de Bruce Springsteen.
Pas tant non plus, mais c'est l'album Nebraska 1982. Juste avant qu'il fasse Born in the USA, qu'il a vraiment là, rendu populaire partout. Mais,
fait que c'est un album qui a l'air de réconcilier beaucoup avec ses problèmes de relations. Il semble avoir un père violent, milieu ouvrier, pauvre, etc. Là. On connaît quand même Bruce pour ce qui est l'homme du peuple et tout. Je ne sais plus comment il surnomme.
The Boss.
The Boss, OK.
Puis,
il vient de Philadelphie, lui, c'est ça.
Fait que... New Jersey, il me semble.
New Jersey, OK. Je pense que c'est un gars de Philly.
Ouais.
Puis un peu autour du film... Film de Scott Cooper, qui avait fait entre autres Crazy Heart, qui était un de ses gros succès avec Jeff Bridges, film de musique. Mais moi, je m'en souviens, Hostiles, j'ai bien aimé, Black Mass, c'est un réalisateur touche-à-tout, justement, on parlait de ceux qui se rendaient dans James Bond en début d'épisode. Je crois qu'on l'avait déjà annoncé, Jeremy Allen White, qui joue Springsteen, puis en regardant la bande-annonce, pour certains moments, je suis comme, ah oui, c'est son chanceux parce qu'il ressemble, puis c'est une star montante, même établie, fait que ça tout fit, parce que des fois, t'as le look-alike, mais c'est pas un beau nom sur ton affiche, là, t'as les deux. Jeremy Strong, qu'on va revoir, qui est toujours très fort en personnage secondaire partout. Je souligne, c'est un nom qui est moins connu, mais Paul Walter Hauser, que moi, j'avais découvert dans I, Tonya, il y a plusieurs années, là, lui qui est un peu plus trapu. Et après, je l'ai vu dans Cruella. Puis là, cette année, il va être dans Fantastic Four, mais son personnage n'est pas annoncé, je ne sais pas ce qu'il joue. Il va être dans Naked Gun, c'est lui qui fait le fils du boss, je pense.
C'était son partenaire.
C'est son partenaire, oui, je ne sais pas si c'est le commissaire. Puis là, cet automne, donc le 24 octobre, dans Springsteen, fait que grosse année pour Walter Hauser.
Moi, j'ai mis hâte de voir, honnêtement, juste par l'angle. Tu sais, je pense qu'on va éviter les pièges du biopic classique.
Ouais.
Concentré juste sur la création d'un album ou presque, là, peut-être un petit peu avant, après, tout ça.
C'est ça, mais pas la création comme genre, j'ai pas le bon rythme, comment je vais faire pour trouver, tu sais, qui était très Bohemian Rhapsody, c'était ça, mais plus il est où dans sa tête à ce moment-là, puis qu'est-ce que cet album-là signifie pour lui, pour sa carrière, pour les États-Unis d'Amérique.
Et la façon insolite aussi qu'il semble avoir enregistré, parce que je suis allé lire un petit peu, puis dans le fond, il a enregistré ça dans une chambre qu'il a louée avec quatre tracks.
Une chambre d'hôtel, là. Ouais, c'est ça, même pas un studio.
Très minimaliste comme enregistrement. Fait que je pense que crée beaucoup de doutes dans les gens de la compagnie de disques qui ne comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient.
Je l'avais déjà dit, pour ma part, j'en ai soupé des biopics musicaux qui se ressemblent trop. Puis honnêtement, j'ai écouté la bande-annonce un peu à reculons. Puis j'ai fait « Hey, ça me tente, tu sais. » Ouais. Avec Unknown Person de Bob Dylan, m'avait aussi, j'étais un peu mièvre, en tout cas, j'étais neutre par rapport au film. Puis quand je l'ai vu, je fais OK, ouais, j'aimais bien les angles qu'ils ont mis là. Puis j'apprécie Timothée Chalamet. Puis je suis OK, cool film. Puis là, on dirait que ça a nourri. On dirait que c'est la marche suivante vers Springsteen qui a l'air comme vraiment bon. Puis c'est comme un artiste très établi et intemporel, mais très américain. Donc moi, je le connais pas vraiment.
Mm-hmm.
Fait que je suis comme curieux d'en apprendre plus.
La seule cassette que j'ai eue, c'était Born in the USA, en 80.
Je n'avais aucune. Je connais cette chanson-là.
Qui était plus pop un peu.
Puis il y en a une autre qui est dansante aussi. Il y a une toune un peu qui est souvent dans des trames sonores de films puis des bandes-annonces.
Born to Run, qui a un assez gros succès. Évidemment, Philadelphia. Suite à Philadelphia pour le film Philadelphia.
Ouais. Je pense que c'est pour ça que je pensais que Philadelphia, j'ai juste mêlé ces deux faits-là.
Alors, découvrir le 24 octobre prochain pour le film de Springsteen.
Pour l'Halloween.
oui, c'est ça. Alors, allons-y avec les films de la semaine. Puis, bon, tu viens de parler d'Halloween. Allons-y avec le film d'horreur. Peut-on qualifier d'horreur?
Discutera. En tout cas, mais c'est certainement...
28 Years Later de Danny Boyle.
Oui, alors c'est l'univers cinématographique de zombies britanniques qui avait eu le beau succès des débuts des années 2000, 28 Days Later, donc 28 jours plus tard, qui nous a fait connaître. Ben, Danny Boyle était un peu connu. Oui, avais-tu fait Trainspotting avant?
Oui, tout à fait.
Bon, Danny Boyle était connu.
C'est Cillian Murphy.
On l'a découvert là, que pendant plusieurs années, on appelait Cillian Murphy, jusqu'à temps qu'on puisse avoir des entrevues sur YouTube pour découvrir comment il se prononce. Et quelques années plus tard, il y a eu 28 Weeks Later, donc 28 semaines plus tard, qui, je pense que Danny Boyle devait être comme producteur ou quoi que ce soit.
Producteur et co-scénariste aussi, c'est juste qu'il n'avait pas réalisé à ce moment-là.
Puis là, toi, tu as réécouté, puis avec du recul, nous présentait Jeremy Renner, Idris Elba, une autre couple de face. Ils sont devenus plus connus plus tard. Mais Renner est américain. Il est pas, c'est ça, il joue un soldat américain qui allait prêter main forte. Fait que là, on continue dans la tangente. On est rendu 28 ans après cette fameuse crise déclenchée par des manipulations virus, en laboratoire de virus et de singes et tout. Pas au scénario, mais au générique, on a les gros noms. C'est Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes. Et on découvre Alfie Williams, qui est un jeune ado de 12 ans, qui va être finalement notre personnage principal. Mm-hmm. C'est donc un genre de coming-of-age zombie post-apocalyptique. On est 28 ans plus tard. En fait, c'est que toute cette crise-là qui affecte les gens qui deviennent des zombies, qui veulent manger les autres, leur chair, et c'est aussi, on se souvient, c'est des zombies qui courent vite, qui sont agressifs. La transformation est instantanée quand tu te fais mordre, quand tu reçois une goutte de sang ou quelque chose comme ça, quand ça rentre en contact avec ton sang, finalement. C'est super rapide, fait que c'est très dévastateur. C'est pas comme les zombies lents que The Walking Dead nous a présentés ou d'autres, les films de Romero et autres. Dans le fond, toute l'Angleterre, le Royaume-Uni, est en quarantaine, puis c'est juste là-bas. Fait que tous les autres pays, on les voit pas, mais on comprend qu'eux, c'est correct. On a juste tout fermé ça là. Puis, petite parenthèse, c'est drôle, je me disais, mais pourquoi ils viennent pas plus les aider? Puis c'est en même temps très réaliste parce que il y a plein de conflits, puis de guerres, puis de famines partout, puis on envoie un petit peu de monde pour aider, mais pas trop, puis on a nos problèmes à nous, puis c'est comme ça, puis tu sais, ouais. Pense à les guerres en Syrie, puis tu sais, on aide un peu, mais en même temps, tu sais, faites votre affaire, puis tu sais, c'est pas vrai que toute l'humanité va se déployer. Une fois que c'est comme, hey, eux, ils ont un gros problème, mais dans le fond, c'est contrôlé, ça peut pas se répandre, ben...
Ben surtout que
on va au cinéma puis on fait nos affaires. Fait
comme tout a chié dans le deuxième aussi, où l'armée, les Américains ont tenté de repartir, puis finalement tout ça a tombé à l'eau. Fait que j'ai l'impression qu'après ça, ils sont juste dit qu'ils se débrouillent.
Ouais, c'est ça. Fait que là, on est au moment où il y a les gens, justement, c'est pas tout le monde qui est infecté. Fait qu'on suit une communauté qui est aussi sur une petite île. Qui s'isolent une fois de temps en temps, ben, ils traversent comme quand la marée est basse, ils s'en vont sur la terre, là, sur une plus grosse île, où là, ils vont chercher des ressources, des affaires, du bois, des trucs comme ça, mais il faut qu'ils fassent gaffe aux zombies qui, là, vivent comme des animaux sauvages un peu partout. Fait qu'ils sont pas, c'est pas un film où on va retourner à Londres puis dans les grands centres comme les deux premiers. Là, on est vraiment en campagne, puis dans la forêt. Et donc, notre jeune, j'ai oublié son nom, Spike. Spike, c'est le kid, le fils de Taylor Johnson et Jodie Comer. Donc, ils vont aller, son père, donc joué par Taylor Johnson, va l'amener...
va lui apprendre comment devenir un homme.
Ouais, aller faire ses premiers kills, puis exactement. Puis leur aventure va être parsemée d'embûches. Et on comprend aussi que sa mère... elle souffre d'un mal-être, elle a quelque chose, elle a des troubles de mémoire, et elle dort beaucoup, elle saigne du nez, puis ils aimeraient ça avoir de l'aide, mais ils n'ont pas de docteur, eux, dans leur petit village, malheureusement, ils n'ont pas de médecin. Je ne peux pas révéler tout ce qui va arriver comme événement, mais c'est un peu ça, mais rapidement, on va se centrer justement plus sur la vision du jeune garçon, la vision de ses parents maintenant qui est... ce rite de passage-là de commencer à les chasser va pas juste le challenger sur genre « Oh, il y a des zombies, il faut que j'ai tué à l'arc à flèche », mais ma vision de mes parents, comment le monde vit, qu'est-ce qui m'attend, moi, là, que j'ai 12 ans, puis que, OK, je vais vivre pour encore 65 ans parce qu'on est en sécurité, mais c'est tout ça, c'est quoi la vie à cette heure, tu sais. Puis au fil de leur aventure, ils vont rencontrer aussi justement un soldat suédois, je pense, en tout cas, scandinave, puis lui aussi qui va juste lui montrer hey, « moi, j'ai un cellulaire, là ». Puis c'est lui un peu qui va être notre pont pour comprendre qu'ailleurs, ça va bien, mais lui, l'enfant de 12 ans, il a jamais vu ça, là, Internet, l'électronique, quoi que ce soit, là, il est comme l'ancien temps, finalement. Ouais. Fait que Danny Boyle revient à la réalisation, co-scénarisé avec Alex Garland, une espèce de génie des temps modernes, là, si on veut, là, qui est en feu avec 3-4 films par année. Puis c'est eux qui avaient co-scénarisé le premier, fait que c'est l'équipe de feu. Donc on disait, ah ben, il conclut la trilogie inattendue. Mais en fait, avec ce film-là, ils ont annoncé une trilogie. Donc au bout de toute cette aventure-là, on devrait avoir 5 films de 28 quelque chose plus tard. Puis là, les autres vont être des... 28 années plus tard, 2 points, quelque chose. Là. On sera plus 28 décennies puis 28 siècles. Puis là...
ça aurait été audacieux.
Il y en a un qui s'est juste ben, toute la Terre est détruite. Il n'y a plus rien. C'est dans l'espace et tout.
Fait que c'est pour ça que la fin coupe de manière un peu abrupte. Il n'y a pas
une
conclusion.
C'est une fin ouverte sur plusieurs personnages. Puis on ouvre des portes.
On poursuit l'aventure. Là.
C'est ça.
Fait que c'est pas nécessaire d'avoir vu nécessairement les deux premiers. Parce
non, vraiment
que c'est
pas.
Un...
Moi, je les ai pas réécoutés avant, puis c'est correct. Là, je me suis mis à l'univers. Puis en fait, j'ai passé, mais j'ai une chose à dire. Rapidement, on retrouve le style cinématographique du premier, ce que Boyle avait fait, avec plus de moyens. Mais le montage...
Très nerveux, kinétique.
Il y a même... Le film est en scope, donc plus large, mais il y a même un effet, je sais pas c'est quoi, là, mais des lentilles encore plus larges, fait que ça donne presque un fisheye, des crooked Dutch angle, là, juste un petit peu croche, qui rendent vraiment inconfortable puis stressé, c'est ça. C'est un peu les montages qu'il faisait à l'époque de Trainspotting aussi, là, dans les débuts et tout, fait que c'est Danny Boyle qui a du plaisir, qui doit avoir quoi, genre 60 ans aujourd'hui, puis qu'il y a du fun là-dedans. Là.
Oui, puis c'est comme un retour au genre, je me rappelle plus c'était quoi son...
Ben, c'est parce qu'il y a eu genre le film hommage aux Beatles, puis avec... je vais massacrer son nom, là, Amash Patel. Là.
Ah oui, c'est vrai, oui.
All You Need Is Love, Yesterday, c'est ça.
T'as vu Slumdog Millionaire, évidemment, là. Il y a comme une tangente.
C'est ça, mais il y a eu Trainspotting 2, il y a eu même Trance, une couple de films moins des gros succès. Il était tombé dans le People Pleaser, qui finalement plaisait pas tant que ça, le People.
Donc, moi, je trouve la révélation du film, c'est le jeune Alfie Williams qui joue Spike, honnêtement. Ouais. Très, très bon. Les autres comédiens, très satisfaisants, évidemment.
Ben, c'est un... Mais... Je tiens à dire que on a vu Taylor Johnson dans Nosferatu, puis c'est le fun de le voir bien jouer puis dans des bons films, parce que le Craven, ça, c'était c'est un peu de la marde. Là.
Il peut être bon dans des bons projets.
C'est un bon comédien, celui-là. Oui, oui. Il prend peut-être pas toujours les bons...
ou son agent lui refile les mauvais scénarios. Puis, donc, le prochain film lui sortira quand même assez rapidement. On parle de janvier 2016, fait que de Bone Temple. Déjà là, la table est mise, on comprend qui devrait être l'antagoniste du prochain film.
Ça va être réalisé par Nia DaCosta, qui a fait Candyman.
De Marvels. Donc là, envoyez-nous pas des briques quand même.
Ben moi, j'avais aimé le film de Marvels, mais pas le public. Évidemment.
Effectivement.
Il y avait surtout un désintérêt pour le film, plus que pas aimer le film. En
fait. Fait que moi, j'ai quand même été surpris. Je trouve que le film est très Alex Garland. Mm-hmm. On est un peu dans cet environnement très anxiogène, je trouve, de Men. Un peu Civil War. Je trouve qu'il y a quand même un changement de cap un peu avec les deux premiers films. Fait que vous avez vraiment capoté sur les premiers films. Je sais pas comment dire ça. Mais peut-être que ça va moins vous rejoindre, parce que je le vois déjà sur les réseaux sociaux. Là. Il y en a qui crient au génie, d'autres qui aiment moins. Puis je pense que c'est un film qui va peut-être polariser un peu.
Ce que je vois sur... on en parle sur Letterboxd. Je vois beaucoup de 4 étoiles. Les gens, en général, apprécient. Mais il y a une espèce de twist au milieu qui va faire un peu l'effet long legs. Puis ce que je disais par l'effet long legs, pas par rapport à l'histoire, mais genre, des gens vont sortir, comme tu viens de dire, en disant « Wow, ils ont osé, ils font le film qu'ils veulent faire. » Puis d'autres qui vont dire « C'est quoi ce marde-là? J'aimais comment ça partait, puis j'ai pas aimé où ça va tourner. » Fait que juste ça, ben, j'espère qu'en le disant, ça pique une curiosité. T'sais, c'est le genre de film, si ça vous intéresse, allez-y, c'est super hot au cinéma.
Oui.
Le film est comme enlevant, mais comme tu dis, on dirait qu'on est dans un peu comme Walking Dead a fait, c'est-à-dire qu'on est dans un monde d'horreur, mais on n'a pas tant un film d'horreur finalement. Mm-hmm. C'est une aventure coming of age, un drame familial. Ouais. On avait plus là-dedans.
J'avais lu le terme folklore horror.
L'horreur folklorique, qui revient un peu à la mode. A24 en a fait un petit peu à ses heures. Là.
Moi, j'ai quelques fun facts pour nos auditeurs. À quelques reprises, il y a une récitation d'un poème sur un ton assez monotone, monochrome.
La première bande-annonce ou pré-bande-annonce avait ça. Extrait de quelque chose.
Écoute, je suis allé fouiller un petit peu, mais j'étais vraiment curieux. Donc, c'est un poème qui s'appelle Boots, qui avait été écrit par Rudyard Kipling, qui était l'auteur de Jungle Book, le livre de la jungle. Rudyard Kipling. C'est un enregistrement qui date de 1915 de l'acteur Taylor Holmes, et ça évoque, en fait, ça avait été écrit...
après la Première Guerre mondiale?
C'est pendant la... 1915, mais c'était surtout pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud.
OK.
Donc, ça évoquait la marche de l'armée britannique et tout ça. Et qui est utilisé par l'armée américaine dans l'entraînement des soldats, parce que apparemment que ça fait un effet de détresse psychologique, comme si t'étais un otage. Fait que pour entraîner les soldats à être otages, je pense qu'ils doivent faire ça en boucle, puis tu dois comme combattre la folie un peu que ça doit
c'est
créer.
C'est une forme de torture. L'entraînement à la torture.
Parce que c'est assez spécial, d'autant plus qu'on mélange ça avec des images d'archives, effectivement, de différents films, dont je pense Ivan Way avec Laurence Olivier, bref. Fait qu'il y a un côté quand même un peu... Danny Boyle s'est amusé, là, vraiment, narrativement. Le film a été tourné avec un iPhone 15 Max.
Tout le film?
En bonne partie. Fait que il a gardé, tu parlais de cet esthétisme-là visuel un peu, parce que le premier avait été tourné avec une Canon X1, qui était une des premières caméras numériques de l'époque.
Tu vois, moi, je ne l'ai même pas réécouté récemment, parce que je l'ai quand même vu assez souvent, mais là, ça fait peut-être 8-9 ans que je ne l'ai pas vu. Puis, je me souvenais de dire, au moment ça a été fait, c'est quoi, 2002 peut-être?
Ouais, à peu près, ouais.
C'est clair que ça a été tourné dans les débuts du numérique, puis ça avait l'air de tout ça, là, comme on dit souvent ici, Québec-Montréal, puis la loi du cochon. Ça, c'était du mini-DV, fait que ça a vraiment mal vieilli. Lui, je pense qu'il y avait un peu mieux que ça quand même. Là.
Mais ça détonne quand même. Ben, quand j'ai réécouté, j'ai fait un peu le saut. Là,
parce
ça
devait être ces technologies-là, des espèces de tape numérique, là, et non pas, je pense pas que c'était sur disque dur début 2000.
Non,
c'est arrivé un petit peu plus tard, les caméras... qui enregistrait directement, mettons, en MP4. Là.
Non, la Canon, par exemple, c'était digital. Il me semble que c'était juste un vide, puis tu downloadais dans ton truc là, de mémoire. Fait que pour les amateurs de l'iPhone 15... Ouais,
les films de skate, ils ont mis à utiliser full ces genres de caméras-là, à un moment donné, là, avec une poignée sur le top, puis tout là. Ouais.
Donc, vous pouvez aller tourner votre propre film de zombies, si ça vous tente.
Hey, ben, à chaque fois que tu demandes des... des conseils à plusieurs, tu sais, des réalisateurs plus... de métier, mais même un Spielberg, ceux qui font beaucoup de films et tout, là, à un moment donné, c'est comme, hey, c'est quoi votre conseil pour faire des films? Parce que, fais un film.
Mm-hmm.
Puis à un moment donné, j'avais déjà demandé à. J'avais vu un rodage d'un humoriste, puis tu sais, j'étais comme, comment tu fais pour. C'était dans un bar, fait que après, payer des shooters puis parler, puis j'étais comme, hey, comment t'écris? Je comprends pas comment. Tu sais, le monde écrit, j'écoute des podcasts, tu sais, écrit des blagues, puis t'écris. C'est comme, tu sais, la forme, puis le genre, le logiciel qu'on utilise, ou des scénarios de films, c'est comme, ah oui, tu utilises Final Draft, ou c'est comme, écrit, là. Mm. Après, tu t'arrangeras quand tu vas rendre plus loin et tout, mais fait que c'est un peu ça, souvent, les Michael Bay, puis même, l'autre qui a fait genre deux films cette année, là, qui avait fait les Ocean 8, là. J'ai toujours Cronenberg.
Oui, Steven Soderbergh.
Ouais. Soderbergh, c'est ça. Lui aussi, là, c'est genre, fais un film, pogne un téléphone, fais ton affaire, arrange-toi pour un son pas pire, puis au pire, t'ouvres de bras, puis c'est pas grave. Tes premières affaires vont être de la merde, fait fais juste en faire pour arriver à tes affaires suivantes, fait que tu vois, après, on est tout le temps impressionné, comme, oh, ils ont pris un iPhone, tu sais, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Ben oui. Mm-hmm. Oui, tout à fait, vas-y. C'est ça. Mais fait qu'il y a quand même 60 millions de budget parce qu'il y a des zombies, il y a des lieux, ils ont créé ces affaires-là. On voit dans les annonces
quand même un peu
pile de squelettes et tout.
Mais quand même, je trouve que c'est beaucoup pour...
Après moi, c'est les lieux, ils ont dû prendre beaucoup de jours de tournage. Peut-être. Ça doit être un tournage qui n'ont pas genre... Je sais pas, mais tu sais, presser le citron, puis on fait ça en 29 jours, là, d'après moi.
En même temps, si tu tournes avec un iPhone 15, t'as pas une grosse équipe technique non plus, j'ai l'impression.
Ils sont en extérieur, fait que t'as un éclairage naturel, des bounces, des affaires de même.
Je sais pas.
Le craft devait être excellent, là.
Espérons. Restons du côté américain, mais cette fois-ci pour la famille, avec c'est le nouveau Pixar, 29e film déjà, de Elio, donc de Madeline Sharafian et de Domichi.
C'est-tu le premier Pixar officiel, c'est-tu Toy Story?
Oui.
Il y avait un court-métrage avant, là, La Petite Lampe,
oui,
fait... mais le premier long-métrage. Le
premier long-métrage, c'est Toy
Story. C'est 95?
15, oui. Ben lui, il fait 40 ans, non 30 ans.
30 ans?
30 ans de Toy Story déjà.
Ah, s'il y avait eu 30 films. La pandémie a dû retarder quelque chose. 30 ans, 30 films. Pouf.
Ça aurait été hot.
Voilà. Elio, oui, c'est ça. Puis Domichi, c'est une Canadienne, hein, faut dire.
C'est elle qui avait fait Alerte Rouge, Turning Red.
Red, lui a été un... Ah ben justement...
Une victime.
Ah, mais il est compté quand même dans les
20 ans.
Je n'ai pas allé au cinéma à cause de la pandémie et tout.
Ouais.
On va suivre Elio, qui est un jeune garçon qui... ses parents sont décédés, il vit avec sa tante, il sent pas... Pourtant, elle essaie de communiquer avec lui puis de l'intégrer et tout, même si cette parentalité surprise a déraillé un peu sa carrière d'astronaute, puis maintenant il est plus analyste. Lui essaye de... Il pense qu'il va avoir une vie meilleure s'il se fait enlever par les extraterrestres, qu'il va pouvoir enfin connecter avec une différente solitude que la sienne, subit de l'intimidation parce que c'est un peu le garçon weird qui se met des passoires sur la tête, puis qui est bon avec les radios AM, puis ces affaires-là, radio à ondes courtes. Fait que finalement, son vœu va être un peu exaucé. Il va être pris par des extraterrestres qui vont le prendre pour le leader de la Terre. Ils vont l'amener dans cette espèce de... comment on appelle ça? Assemblée générale de tous les peuples et créatures. Là,
un très... genre d'ONU.
Ouais, c'est ça. Très Star Wars, quand tous les peuples se rencontrent puis qu'on voit les petits E.T. Sauf qu'il va y avoir une espèce de tyran mégalomane que le comité ne veut pas accueillir. Fait que ben, si je ne peux pas vous joindre, je vais vous détruire. Fait que lui, pour se faire accepter, va dire ah, ben moi, je vais aller négocier la paix. Et ça va l'amener dans une aventure d'amitié, d'extraterrestres et intergalactique.
Bien dit.
Voilà pour Elio. Comme tu dis, c'est un Pixar. Je trouve qu'on a la touche Pixar au niveau visuel, l'animation, la créativité. On sent que c'est des amateurs de cinéma, beaucoup de clins d'œil aux films de science-fiction. On reconnaît les deux. En tout cas, moi, j'ai reconnu rapidement celui à Terminator 2. Ouais.
Clin d'œil à Alien, E.T. aussi.
Ouais, j'ai jamais vu Rencontre du troisième type. Ouais. Je ne sais pas s'il l'avait aussi.
Ouais, au niveau musical, là, du
Ah oui, c'est vrai, la musique qui décode pendant ce temps-là, les analystes, parce que là, vous aurez compris, vu que sa mère est sa tante, mère adoptive, vu qu'elle est analyste à la NASA, ben là, elle va travailler avec lui à distance, etc. Puis c'est un film qui a des thèmes assez communs dans son scénario. Là, on est dans
on a toujours le personnage, si on se fait Inside Out, un et deux, tout ça, le jeune avant va souvent souffrir d'un mal-être quelque part.
Mais une forme d'introversion aussi, de genre...
Je trouve qu'on aborde quand même des thèmes qui peuvent être un peu complexes, mais bien faits pour les jeunes. Fait que c'est pas juste n'importe quoi garoché sur un écran.
Mais je veux dire, c'est pas un film qui parle particulièrement du divorce de tes parents. Tu sais, dans la confiance en soi, le besoin d'appartenance.
Ben là, même aussi. Fait que,
oui, c'est vrai. Oui, c'est ça.
Beau sujet, mais je veux dire, dans le fond, Pixar, on la touche de... Je trouve de bien développer ces thèmes-là plus sérieux qu'on jugerait, mais de le rendre à la grandeur d'enfant pour qu'ils comprennent ça.
Ouais,
fait que, ça. Sans prendre un enfant pour un imbécile. Fait que, bref, c'était mon petit aparté.
je dois dire quand même, on dirait qu'un Pixar vient toujours avec des grandes attentes. Mm-hmm. Puis surtout qu'on sort de Inside Out 2. L'an prochain, on a annoncé qu'il y a Toy Story 5. Ouais. Il va y avoir un autre film au printemps aussi. Je pense pas qu'on va avoir Elio 2, 3, 4 puis 5. Là. Je crois que c'est un film, prenez-le pour ce qu'il est. Moi, j'ai bien apprécié. Je pense que les gens vont peut-être avoir tendance à être sévères parce que les attentes d'un Pixar sont très élevées. Est-ce que ça va marquer une génération puis qu'il va avoir des couvre-lits? Je crois pas. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais film pour autant. On a passé un très bon moment. L'humour est peut-être un peu plus juvénile. Il n'y a pas vraiment de deuxième sens adulte. Outre que peut-être les référents justement à des Terminator puis des affaires comme ça, là, mais...
Oui, on est dans quand même plus que léger, là.
Oui, c'est ça.
Puis je trouve que c'est quand même assez enfantin. C'est pas un défaut, là, ceci dit, mais toute la relation avec les extraterrestres dans le design des extraterrestres ou des créatures, c'est... un enfant de 4-5 ans, va bien trouver son compte. Là, il va rire.
C'est pas effrayant. Non, même le méchant, qui sont finalement des limaces dans un gros saut, un mec... Qui fait aussi, je sais pas qui a inventé ça, mais t'as Alien 2, là, justement, le fameux suit. Puis, il y en a un des extraterrestres, justement, là, je référais, ça me rappelait, c'est dans Cinquième élément. On a regardé ça après le visionnement, finalement, là, l'espèce de créature ronde au début, là, que là, le monsieur il veut connecter avec, puis là, ça se transporte dans le futur. Là. On dirait qu'il semble inspiré de ça. Puis, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais. Va se lier d'amitié avec un autre enfant extraterrestre qui est une espèce de ver géant qui vit dans la lave et tout. Puis, ça m'énerve parce que ça m'échappe. Puis, on a une collègue de travail qui est plus aux ventes puis aux, la publicité là, pour le magazine. Fait qu'elle est pas tant dans les films que ça. Mais elle m'a dit, oui, c'est j'ai vu le poster puis c'est full inspiré de... C'est une créature... qui est microscopique, qui fait genre 1 mm, puis c'est des genres de chenilles comme ça, un peu comme les limules, que genre la communauté scientifique est fascinée parce que c'est genre indestructible, puis c'est très weird comme affaire.
Pour en avoir vu en personne sur les plages, c'est quelque chose.
OK, est-ce que c'est ça que tu allais dire?
New Jersey, voilà, ouais.
Mais je sais pas si j'ai oublié comment ça s'appelle.
Je te relance juste sur les limules.
Les limules, ça
vu, c'est... Là, c'est on a freaké la première fois qu'on a vu ça.
Oui, puis ça, les limules, c'est parenthèse. Là, j'avais en tout cas une ex-copine qui a fait un travail à mener là-dessus, puis c'est ça, c'est comme c'est un truc qui est vieux comme le monde, mais qui a comme arrêté d'évoluer, fait que c'est vraiment un truc préhistorique qui se promène encore là. Je vais te passer un peu le micro, retrouver le nom de la créature.
Donc, c'est une bonne offrande. Comme tu dis, ça n'a peut-être pas le statut d'une histoire de jouet ou de Trouver Nemo, mais je pense que toute la famille va passer un bon moment. Puis dire que, dans le fond, l'origine de l'histoire provient d'Adrian Molina, qui, lui, nous avait donné Coco
il y a quelques
années. Puis en fait, c'est lui qui devait réaliser le film. Mais en cours de route, je pense qu'il y a un peu un conflit de vision avec Disney, avec Pixar. Fait que finalement, je pense pour le tasser du projet, ils lui ont offert de faire Coco 2. Puis c'est là qu'on a transmis le projet entre les mains de Madeleine Sharafian puis de Dom Michi, qui, d'après les bons de Disney, avait comme réussi à rendre plus... attrayant, en tout cas plus empathique, le personnage principal d'Elio. Je pense que, vu que... Parce qu'en fait, c'est très inspiré l'histoire de Molina, qui a grandi sur une base militaire. Fait que c'est parti un peu de tout ça.
C'est quand même étrange parce que justement partout, on dirait que toutes les Letterboxd puis les sites, même IMDb,
on met son nom dessus.
On met son nom,
c'est pas
ça, quand on a écouté le film à la fin, c'est comme non, mais c'est story by, mais il n'est même pas scénario ni réal, il n'est même pas co-réal. C'est juste, comme tu dis, il était dessus, ils l'ont sorti puis amené, il n'y a pas les crédits finaux, mais partout il est attaché.
Et là, on laisse quand même.
Peut-être que ça va. Là, le film est sorti. Peut-être que toutes ces places-là vont voir le film puis qu'on va voir les correctifs tranquillement puis son nom disparaître un peu. Là. Ah, je ne retrouve pas comment ça s'appelle, mais si vous le savez, à la maison, criez. Mais c'est une affaire qui est tout petit puis là, lui, il est plus gros. Mais c'est vraiment, quand elle m'a montré ça sur Google Images, c'est le même design et tout. Si je le retrouve, des fois, quand je fais des erratums comme ça, au montage, je ne corrige pas, mais je le mets dans la description. Je mets dans la description de l'épisode, on parle de tel film. Ah, puis l'affaire que je voulais dire, c'était ça.
Je pensais qu'on avait comme juste une voix qui ne matche pas trop. Puis
non,
la créature
parce que
tout, tout, tout.
Ça arrive que sur le coup, on s'en rend pas compte. Puis je dis comme, oui, c'est lui qui avait fait, mettons, Danny Boyle, oui, il a aussi réalisé 28 Weeks Later, puis on continue. Puis là, plus tard, je fais, non, on s'est vraiment trompé, mais je suis comme, non, je fais pas des overdubs pour corriger. Des fois, tu peux couper. Des fois, il y a une affaire que tu peux juste enlever. Je ne veux pas de temps de montage, mais l'autre fois, c'est comme « Ah, on a moffé un nom ou on a dit une fausse information. »
Puis on
dit très peu, là, mais je suis comme « Non, je le laisse aller. » Puis des fois, on se fait écrire pour dire « Vous avez dit ça. » Puis je suis comme « Ouais, je le sais, mais trop tard. » Puis Pat n'était pas là, puis je ne voulais pas le réenregistrer. Puis c'est trop compliqué. Puis, voilà. En plus, parce qu'on fait ça chaud, fait qu'on fait toujours les épisodes... le vendredi, quand on a vu le dernier des films, puis là, je veux le mettre en ligne avant de partir pour le week-end. Fait que des fois, je me retrouve à faire le montage à 4 heures le soir. Là, je suis comme, on en vraie. Puis s'il y a une petite truc erroné, ça enflamme la toile.
Bon, alors, restons dans le plus léger. Stéphane, il y a deux très bons films français qui prennent affiche ce vendredi-ci. Le premier, Les Barbares de Julie Delpy, qui est aussi actrice, mais scénariste et réalisatrice.
Et une de tes coups de cœur.
Que j'aime. J'ai pas tout vu d'elle. En fait, c'est plus sa trilogie
de
Richard Linklater qui est comme.
Ça s'appelle-tu la Before Trilogy?
Maintenant, je pense que c'est comme ça qu'il le nomme. Là.
Puis, mais aussi en vedette, deux noms très connus, Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte, qui sont pas un ancien couple, eux autres. J'y mélange tout, qui était avec qui, là?
Il me semble que non.
Ah, je sais plus. Ouais. Corrige-moi si je me trompe, parce qu'en fait, je n'ai pas vu le film, c'est toi qui l'as vu. On est dans un petit village breton, Pimpon,
genre. Pimpon, oui. Qui est le vrai nom, qui est un vrai village.
Mais qui n'est pas P-I-N-P-O-N comme Pimpon, de l'émission Jeunesse. dans un grand élan de solidarité, les habitants d'un petit village breton vont accepter avec enthousiasme d'accueillir des réfugiés ukrainiens à cause de la guerre Ukraine-Russie. Sauf que finalement, les réfugiés ukrainiens, il n'y en avait plus de disponibles, comme c'était backorder au magasin. Fait qu'ils reçoivent, ils vont accueillir des Syriens. Puis là, ça va chambouler le monde parce que là, c'est pas la même religion. Puis là, tout le monde est travaillé de ça. Fait que ce petit village-là va être challengé, disons, par leur arrivée. Puis tout ça va donner une espèce de miroir un peu sur peut-être les Français, finalement.
Ben, d'autant plus qu'il y en a qui sont très accueillants. Un autre un peu moins, qui est joué par Laurent Lafitte, qui est le
plombier malveillant.
Ouais. Donc, écoute, c'est une comédie très, quand même satirique, assez intelligente, parce que Julie Delpy, c'est quand même quelqu'un
qui est allumé.
Moins, qui est assez intellectuel dans sa façon d'écrire les scénarios et tout ça, pour ceux qui ont vu ses films. Donc là, c'est juste qu'elle change l'enrobage un peu. Au lieu d'être dans un drame, on est vraiment dans une comédie légère.
Ça donne-tu quand même une comédie de situation, justement?
Dirait, oui, quand même. Il y a quand même quelques bons twists, honnêtement, dans l'histoire. Mais c'est vraiment les comédiens sont vraiment sympathiques. Laurent Lafitte excelle dans ce personnage raciste qui va créer plein d'embûches pour la famille. Sandrine Kiberlain aussi, qui est comme copropriétaire d'un peu l'épicerie du coin et tout ça.
On voit dans la bande-annonce qui offre des... Ah, je vous offre tous ces produits-là. Là, vous allez voir, c'est un peu passé date, mais c'est super correct. Moi, j'en mange aussi. Fait que t'es comme... Ben oui, mais c'est comme moi, c'est un cadeau un peu... botché, là, de genre, mes pertes, je vous les offre.
Tu vois que les gens sont des fois remplis de bonnes intentions, mais ça peut être maladroit.
Ben, c'est ça que je lisais un peu autour du film, exactement. Une espèce de bonne foi malaisante. Ouais. Puis aussi le personnage de Julie Delpy. Elle est comme... Est-ce la mairesse ou c'est juste une enthousiaste?
Non, c'est une institutrice.
OK. Puis elle aussi a l'air d'être comme... d'avoir des œillères de positivité.
Oui, elle, c'est vraiment plus la militante, disons, du village et tout ça. Fait que vraiment un beau film d'été, honnêtement. Malgré le sujet, comme je dis, traité avec légèreté, avec goût, très bien joué. Je pense que vous allez passer un très bon moment.
Puis ça s'exporte bien, c'est ça? C'est pas trop oui, français?
Vraiment pas. Non, non,
il y a des problèmes qu'on peut relativiser avec ici.
Ben effectivement, je pense que c'est rendu vraiment planétaire. Là, puis l'enjeu de l'immigration, des migrants, on le voit aussi du côté du sud de la frontière. Là, fait que c'est un sujet qui est quand même...
occidental, finalement.
Oui, très à propos. J'ai eu l'occasion de rencontrer, de jaser, oui, avec Julie Delpy.
Est-ce que juste sur le tapis rouge ou aussi?
Je l'ai interviewé cette semaine.
En plus, c'est ça. Oui. Fait que là, vous êtes body-body.
Ben, mais
est-ce que tu as dit, c'était moi sur le tapis rouge au TIFF, tu t'as posé une question?
Non, je sais pas. Sur Richard Linklater. C'est moi qui ai dit que j'avais aimé les films de Buffon.
Vous êtes le premier. Merci, M. Marlowe.
Mais non, une conversation très, très intéressante. Mais comme vous allez voir, en tout cas, si jamais. Non, c'est ça. C'est pas audio, mais elle est quand même très sérieuse. Okay. Tu vois que ce qu'elle est à l'écran, je pense qu'elle est dans la vraie vie quand même. Mais bref, l'article est en ligne déjà là, sur monciné.ca. Vous pouvez aller lire ça.
Puis ta brève rencontre sur le tapis rouge, je l'ai publié sur
Cool.
Mais sur l'Instagram, je pense pas qu'il est sur le Facebook. Okay. Je vais regarder si c'est cross aussi. Machin posté.
Oui, c'était sympathique. En plus, c'était drôle parce que nous étions seulement 4 médias français parce que là, tu étais à Route Toronto avec les Américains puis le Canada anglais. Se foutait un peu de la sortie du film. Donc, on a un peu plus de temps pour la voir, mais je sentais qu'elle était très inconfortable, je pense, dans ce rôle-là de promotion. Je pense que c'est pas ce qu'elle aime le plus.
Ouais.
Et parader comme ça, comme un peu une marchandise aussi, là. C'est quand même une très finesse, très engagée. Fait que tout ce côté-là, un peu d'apparence, là, c'est... Dans son non-verbal, ça se faisait sentir.
Ouais, bref, j'aimerais mieux être ailleurs.
Ouais, genre.
Mais par téléphone, là, c'était plus agréable.
Alors, le fait par Zoom, c'était très agréable. Ouais, c'est ça quand même. Puis elle partage son temps entre les États-Unis et la France. Parce
parce qu'elle a eu des projets
elle a travaillé longtemps, beaucoup. Mais en fait,
elle
était en couple avec un Américain et elle a un enfant avec lui. Donc son,
OK. International.
Son... Ouais, c'est ça. Fait que eux demeurent à Los Angeles. Fait que c'est super intéressant. Puis... on apprend entre autres parce qu'elle a travaillé avec d'autres scénaristes pour écrire le film. Puis justement, pour elle, c'est important, vu que là, elle est plus souvent du côté des États-Unis, même si elle voit ça à petite échelle, mais d'écrire ça avec des Français qui, eux, vivaient ça de l'intérieur aussi. Et le film a été écrit pour Pimpon, parce que j'avais demandé justement est-ce que ça a été compliqué de trouver le petit village, qui est comme un personnage en soi aussi, vraiment un beau petit village, très, très campagnarde. Et en fait, c'est sa tante qui habitait là. Et elle allait souvent lui rendre visite parce que les parents de Julie Delpy sont des comédiens de théâtre. Okay. Donc, ils faisaient beaucoup de tournées. Alors, quand ils partaient, elle allait vivre chez sa tante à Pimpon. Donc, ça a toujours resté gravé dans sa mémoire.
P-A-I-M-P-O-N-T, c'est
ouais,
ça?
Oui, effectivement.
Pimpon.
Et on retrouve aussi, en terminant, Albert Delpy, qui est le père de Julie, parce qu'il est dans tous ses films.
Ah oui, OK.
Ouais, fait qu'il donne toujours un petit rôle comme ça, peu de mal commode.
Il joue,
Le vieux du village, là, qui a une espèce de maison abandonnée qui va donner aux nouveaux arrivants, effectivement, à cette famille-là. Puis justement, lui, c'est plus un anarchiste. Là, fait que,
mais il joue pas le père de son personnage.
Non, c'est ça. Okay. Ouais. Ça a déjà arrivé qu'il jouait son père à elle dans un film, mais souvent, c'est ça. Il a le rôle du petit malcommode, je pense que c'est... c'est sa personnalité.
Mais ça doit être quand même, je veux une parenthèse, tu sais, épatant, voire émouvant, là, ça fait plusieurs films, mais tu sais, toi, t'arrives, comme tu dis, c'est un comédien de métier, mais plus de théâtre et tout, il a peut-être fait moins, je le connais pas, là, moins de cinéma. Ou...
Ouais.
Puis là, t'arrives, tu sais, ta fille est rendue, elle fait des films internationaux, elle les écrit, elle joue dedans, elle est reconnue, elle a joué dans des films iconiques. Puis tu sais, tu dois la regarder un peu en spectateur quand t'arrives, je veux dire, ces journées de plateau, là, elle dirige, elle fait le rôle, elle te fait ton, tu sais, tu dois être comme fier de tout ça, que tu dis, je voulais pas que tu suives, souvent, je veux pas que tu suives mes pas parce que... La vie d'artiste, c'est de la merde. Ouais. Tu sais, je te souhaite de faire ce que tu veux, mais s'il te plaît, fais pas ça. C'est vraiment rushant. Là. Tous les artistes, c'est toujours ça. Là. C'est rare que tu veux que tes enfants le fassent aussi. Puis, mais au final, elle fait, elle réussit. Pas nécessairement mieux, c'est pas ça que je veux dire. Elle est juste différent, puis elle réussit dans sa ligne et tout. Puis tu vas être comme, hey, wow, puis je suis témoin de ça.
Oui, puis elle a dit, elle a vraiment du plaisir, évidemment, à faire tourner, à diriger son père. Puis elle dit, justement, sur le plateau, il est très, très aimé, il fait beaucoup rire. Fait que, ouais, ça doit être assez particulier quand même comme dynamique. Quand tu as l'occasion de faire
peu,
ça. Non?
Ou un peu comme ceux des amis qui reprennent la business familiale.
Travailler avec ses parents. Là,
les boss, c'est ça. Alors que pour la plupart, on ne fait pas ça. Tu te retrouves ailleurs.
Partir ailleurs.
Partir ailleurs, partir un jour.
Partir un jour, dernier film de la semaine. Je me trompe pas.
Oui, j'ai pas d'autres petites perles.
D'Amélie Bonin.
Ouais, son premier long métrage est pas plate. Il a joué en ouverture du Festival de Cannes il y a quelques semaines. Donc,
en
tout
hors compétition, oui.
Oui, alors que Les Barbares, peut-être, ça fait un peu plus longtemps que vous entendez parler. Il vient d'arriver au Québec, mais ça fait un peu plus longtemps qu'il est sorti en France et tout. Il a joué à Cinémania, même à l'automne dernier. Mais Partir un jour, c'est très frais. Il est encore à l'affiche en France, d'ailleurs. Juliette Armanet, Bastien Bouillon, que lui, on a vu un peu plus.
La dernière année, oui, quand même.
Le Comte de Monte Cristo,
ouais.
La nuit du 12 aussi.
Monsieur Aznavour.
Oui, c'est vrai. En visite dans son village du Val-de-Loire, donc on s'en va en campagne ici aussi, une chef cuisinière est sur le point d'ouvrir son restaurant à Paris, mais elle doit retourner dans son village pour s'occuper de son père qui vient d'avoir un malaise cardiaque. Lui opère plus la cantine du coin, le snack.
Un truck stop.
Truck stop, voilà.
D'un relais routier.
Et exactement. Et oui, il doit y avoir plein de motocyclistes. Et elle va renouer un peu avec aussi son amour de jeunesse, alors que là, il est sur le point d'ouvrir un restaurant avec son nouveau chum de la grande ville. Fait qu'il y a ce truc un peu très...
Mais amour, en même temps, il s'était jamais déclaré ouvertement.
Ouais, c'était un peu un rendez-vous manqué, on veut. Mais tu sais, tu comprends que c'est des amis du lycée et tout, puis ça s'est jamais passé.
Il y avait des sentiments un pour l'autre.
Puis elle aussi, elle a gagné, ou en tout cas, du moins participé à un concours de chef télévisé. Fait que elle est devenue quand même big shot. Fait qu'il y a ce côté très Hallmark téléfilm américain de « je venais d'ici, je suis devenu une grande personne dans une grande ville et je reviens là un temps de « est-ce que ça va te changer? » Et on joue avec ce code-là. Mmh. Et un des jeux très intéressants, c'est que le film devient un peu musical aussi.
Ouais.
Parce qu'il va avoir pas tant nécessairement des numéros dansés puis flamboyants où tout disparaît, mais... un peu comme des dialogues chantés avec des chansons populaires françaises pour la plupart. Il y en a-tu en anglais, je me souviens plus.
Il y a du Céline Dion.
Ah, OK, bon, c'est quand ça. Même. Ça fait un peu plus longtemps que je l'ai vu, toi tu l'as vu aujourd'hui, mais je l'ai vu il y a quelques semaines déjà.
Pour que tu m'aimes encore, puis Femme Like You. Non, il y a quand même des bons tubes là, cette année-là.
C'est français,
ouais,
Femme Like
You. Oui, mais peut-être dans la sélection de choses.
Yannick et tout. Puis il me semble qu'il y a une... Il joue des premières notes de genre Patrick Bruel ou une affaire comme ça.
Ou Cabrel, je
Cabrel,
pense.
Cabrel, puis ils sentent qu'ils n'ont pas le budget, fait qu'ils font pas une sorte à autre.
Ouais, je sais pas si c'est une question de budget, mais c'est comme un petit moment comique où je pense qu'il arrive pour déclarer quelque chose, puis là, oups, non.
Ouais. Moi, je sais pas si c'est une joke de. Parce que la musique de film, souvent, tu la payes pas. Il y a différents forfaits, mais c'est pas toujours comme ah oui, la toune, mais là, dans ton film, amuse-toi, tu payes à la seconde combien ça joue et tout.
En même temps, je pense que tout avait. T'sais, vu qu'ils chantent sur le plateau même et tout ça, fait qu'ils avaient les droits, ça a été négocié.
Ça dépend comment ils l'ont négocié.
Si se paye Céline Dion, j'ai l'impression que Cabrel. Moi, je pense que c'est vraiment un gag. Que ça a été,
peut-être. Voulu.
Oh, je lui demanderai si je la rencontre un jour.
Oui, c'est ça. À son prochain film, tu sais, la dernière fois, là, pourquoi il y avait... voilà, c'est très charmant, très bon film. Comment dire, c'est... On peut pas lui donner la charge de révolutionner complètement l'espèce de drame sentimental, comédie romantique, mais le film le fait quand même très bien à sa façon de, comme on dit, jouer avec les codes, mais nous surprendre par où le film s'en va finalement. C'est pas un film Hallmark français, c'est pas ça, c'est vraiment plus savoureux que ça et de bon goût, tu sais.
Oui, puis même dans l'esthétisme aussi, il y a un côté très réel dans la réalisation, dans la direction photo que moi, j'ai embarqué.
Oui, parce qu'on vient pas aussi enjoliver cette bourgade. « Ah, je m'ennuie de ce pommier de ma jeunesse avec cette balançoire. » Tu sais, il n'y a pas ça, là, genre. Mm. Mais oui, il y a le conflit un peu père-fille. Dans le fond, ils font le même métier. On vient de parler de ça, faire le même métier. Ils font le même métier, mais de manière différente. Fait qu'amener, ça revient. Tu penses que tu es meilleur que nous. Son chum a amené à le ghost. Ben, il redescend de Paris pour l'aider. On est supposé ouvrir le resto. Puis là, émaillé, c'est ça? Missing in action, tu réponds pas. Fait que, qu'est-ce qui se passe?
Ben, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les personnages que j'ai trouvé qui sont bien écrits, hyper sympathiques. un très bon casting. Moi, ça a été une découverte pour moi, Juliette Armanet, qui est une chanteuse, en fait, en réalité.
Ah, c'est ça.
Fait que ça commence au cinéma, même ça a comme 40 ans. Là, ça fait 2-3 ans qu'elle commence à tourner. Mais là, c'est son premier rôle d'importance. Bastien Bouillon, dans ce rôle-là, hyper sympathique, puisqu'il peut jouer les gars chiants, comme le comte de Monte Cristo.
Oui, oui, oui.
Mais je trouve que là, hyper attachant.
Oui, mais lui aussi, il joue un peu sur... il est un peu sur la clôture. Pas nécessairement d'être un truc, mais ses intentions sont pas claires et tout, justement. Là. Ils jouent un peu avec leur désir enfoui de jeunesse de raviver la flamme. Mais est-ce que, tu sais, si tu souffles sur le brasier, il va prendre en feu, mais es-tu prêt à gérer ce feu-là ou pas, au final? Là,
fait que, bref, très beau film, très intelligent, qui était, en fait, qui est basé sur un court-métrage.
D'elle ou de...
D'elle.
OK.
Qui s'appelait « Partir un jour ».
OK.
Fait qu'elle a repris son court-métrage pour en faire un long qui date de 2023. Elle avait remporté le César du meilleur court-métrage aussi.
Ah, pas plate,
fait quand même intéressant. Et les comédiens jouaient les mêmes personnages. Donc, Juliette et Bastien. Mais les rôles étaient inversés. Dans le court-métrage, c'était le gars qui était un chef qui revenait dans son village. Et là, elle a décidé finalement de centrer ça du point de vue féminin, qui est quand même intéressant.
Fait que chaude recommandation. Je vous dirais aussi de mon point de vue professionnel.
Ouais.
Les barbares, partir un jour, dans les deux cas, hâtez-vous si ça vous intéresse. La programmation, je pense que je vais le répéter à chaque semaine, est très chargée. Malheureusement, ces films-là, ça peut pas s'accrocher 6 semaines au cinéma.
Il y aurait une plus longue vie au printemps ou à l'automne.
Ouais, c'est ça. Fait que là, ce week-end, là, Saint-Jean, c'est sûr qu'il va pleuvoir au moins une journée. Allez-y, peut-être au deuxième week-end, mais visez pas plus longtemps que ça. C'est quand on dit que la première fin de semaine est cruciale pour un film, est moins cruciale sur 28 jours plus tard, 28 années plus tard que sur Les Barbares, parce que c'est eux qui vont sauter quand F1, ben justement la semaine prochaine, ou d'autres films français, comédies internationaux. Il y a comme dans l'échiquier comme de la place pour des gros films, des films moyens puis des petits films, puis un petit film va pas tasser un gros, un petit film va tasser un autre petit film. Puis quand je dis petit film, c'est pas réducteur sur la qualité du film, c'est juste le nombre d'écrans qui ouvre, où est-ce qu'il se passe dans l'échiquier du box-office puis de la popularité du film.
Oui, tout à fait. Là.
Parce que vous voyez que c'est 4 films qu'on a appréciés cette semaine, puis si ça se trouve, nos préférés, c'est Les Barbares puis Partir un jour encore plus que... Mais j'ai quand même un bon moment avec 28 jours, mais tu sais... Bref, on ne fera pas un résumé de l'épisode qu'on vient juste de faire. La semaine prochaine, ben, j'ai très hâte de voir F1, le film. Les premiers échos sont très bons.
Oui.
Étant pas un fan du tout de course automobile, je trouve ça complètement stupide. Mais peut-être que ça va me convaincre par Joseph Kosinski qui nous avait offert Top Gun Maverick la dernière fois. Et ça, c'était pas plate du tout. J'ai hâte que tu vois et qu'on discute du film iranien, mon gâteau préféré.
On dit beaucoup de bien.
Oui, c'est une veuve de 70 ans, est tannée de sa vie solitaire, puis va redonner une nouvelle chance à l'amour. Et le film va nous surprendre un peu comme Partir un jour, peut-être. Là où il nous amène, fait que c'est j'ai hâte qu'on en discute, puis vous intéressez à aller voir ce film-là, parce que c'est comme un genre de film où, au final, on dirait que le public cible est... Ceux qui vont apprécier le plus le film ne sont pas nécessairement le public cible qui vont regarder la bande-annonce puis le poster du film puis dire « Ah oui, un film international, j'aime ça, c'est doux. » C'est comme « OK ». Fait qu'il y a de quoi de très intéressant là-dedans. Pour nous contacter, donc d'ici là, écrivez-nous par courriel balado@commercialmonciné.ca et suivez-nous sur les médias sociaux, s'il vous plaît, magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Et c'est où vous écoutez ce balado, que ce soit, on est juste en audio, mais sur YouTube, sur Spotify, sur feed RSS quelque part, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous. Procurez-vous gratuitement le magazine Monciné, l'édition d'été avec Anne-Elisabeth Bossé en couverture, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et on peut consulter ton entretien avec Julie Delpy et en apprendre davantage sur le monciné.ca.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous êtes enlevé par des extraterrestres, souhaitez qu'ils ressemblent plus à ceux d'Hélio que ceux de Mars Attack.